Vous écoutez « On lit pour vous ».
Événement marquant de l'histoire des personnes noires et de leur communauté au Canada. Un texte de patrimoine canadien paru le 31 janvier 2025 sur le site du gouvernement du Canada. Depuis 1996, la campagne annuelle du mois de l'histoire des Noirs du gouvernement du Canada encourage la population canadienne à en apprendre davantage sur l'histoire des personnes noires au Canada. Vous trouverez ci-dessous les faits marquants qui ont contribué à l'histoire des personnes noires et leur communauté au Canada, ainsi que les impacts qu'ils ont eus dans toutes les sphères de la société, bien avant que le pays dans lequel nous vivons soit le Canada. 1600. La première personne d'origine africaine aujourd'hui reconnue comme étant la première personne à être arrivée sur le territoire qui deviendra plus tard le Canada est arrivée il y a plus de 400 ans. En 1604, Mathieu d'Acosta arrive avec les explorateurs français Pierre du Gademont et Samuel de Champlain. Monsieur d'Acosta, un interprète multilingue qui parlait le français, l'anglais, le néerlandais, le portugais et le pidgin basque, a servi de lien précieux entre le peuple Micmac et les Européens. En 1628, Olivier le Jeune est répertorié comme le premier Africain asservi à avoir vécu au Canada, c'est-à-dire en Nouvelle-France. Si le nom de naissance d'Olivier le Jeune n'est pas connu, c'est parce que ce dernier a été amené d'Afrique dès sa jeune enfance et qu'il a dû adopter le nom de famille du prêtre qui l'a acheté. En mai 1689, à la suite de plaintes sur les pénuries de main-d'œuvre en Nouvelle-France, le roi de France, Louis XIV, autorise les colons à asservir les Pawnees, les Autochtones américains ainsi que les Africains. 1700. Entre 1749 et 1782, la plupart des personnes d'origine africaine amenées en Nouvelle-Écosse sont asservies par des colons anglais ou américains. En 1750, environ 400 Noirs asservis et 17 Noirs libres vivent à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Même si le système d'esclavage prend de l'expansion pendant cette période, en 1767, 104 personnes noires libres vivent aussi en Nouvelle-Écosse, qui comprenait alors le Nouveau-Brunswick et l'île du Prince-Édouard d'aujourd'hui. En 1760, pendant la guerre de 7 ans, entre la Grande-Bretagne et la France, les articles de capitulation qui cèdent la Nouvelle-France à la Grande-Bretagne permettent que les personnes noires et les Pawnees demeurent esclaves. Au cours de la guerre de l'indépendance américaine, 1775-1783, les Britanniques offrent la liberté aux Africains asservis d'Amérique qui se rangent de leur côté pendant la guerre. Un grand nombre saisissent cette occasion pour regagner leur liberté. Par la suite, 10% des loyalistes de l'Empire uni qui arrivent dans les Maritimes sont issus de la communauté noire. Ainsi, ce sont des loyalistes noirs qui fondent des colonies partout en Nouvelle-Écosse. La plus importante était à Bridgetown, près de Shelburne, et d'autres se trouvaient à Brindley Town, près de Digby, Preston, comté de Guysborough, Southville, comté de Digby, Bridgetown, région de Princedale, Virginia East, Greywood, comté d'Annapolis, et Old Tracadie Road, comté de Guysborough. Les loyalistes noirs sont victimes de discrimination et reçoivent des parcelles de terre considérablement plus petites, se voyant octroyer moins de vivres que les autres, et ils doivent travailler pour de faibles salaires. En 1790, en raison des conditions auxquelles ils sont confrontés, environ 1200 loyalistes noirs acceptent l'offre de la Sierra Leone Company, une organisation anti-esclavagiste britannique, de se réinstaller en Sierra Leone, sur la côte atlantique de l'Afrique de l'Ouest. En 1793, le mouvement anti-esclavagiste est encouragé par les actions de Chloé Cooley, une Africaine asservie du Haut-Canada, aujourd'hui l'Ontario, qui résiste à une tentative de trafic pour être vendue aux États-Unis. John Graves Simcoe, lieutenant-gouverneur du Haut-Canada, qui appuie l'abolition de l'esclavage avant même de venir au Canada, entend parler de l'affaire Cooley. C'est lui qui est à l'origine de la loi coloniale pour prévenir l'introduction d'autres esclaves et pour limiter la durée des contrats de servitude. Cette loi libérait les esclaves ayant servi pendant 25 ans et plus et interdisait d'amener des esclaves au Haut-Canada. En plus de l'introduction de cette loi dans le Haut-Canada, les décisions des tribunaux en Nouvelle-Écosse dans les années 1790 ont grandement contribué à un déclin de l'esclavage des Africains au Canada. En somme, ces décisions ont fait du Canada une destination pour les personnes noires en quête de liberté et ont constitué une base importante pour le mouvement abolitionniste. 1800. Au cours des années 1800, un certain nombre de communautés noires historiques s'établissent ici et là au Canada. Certaines viennent à cause de la guerre. Entre 1800 et 1865, environ 30 000 Noirs arrivent au Canada par le chemin de fer clandestin, un réseau de routes secrètes et de refuges sécuritaires utilisés par les Africains asservis pour s'échapper vers les États américains libres et vers le Canada. Leur fuite est appuyée par les abolitionnistes et leurs alliés. En 1807, la loi sur l'abolition de la traite des esclaves dans l'Empire britannique reçoit la sanction royale et devient effective dans tout l'Empire britannique. Pendant la guerre de 1812, de nombreux Canadiens noirs et leurs communautés se rangent du côté de l'Empire britannique. Le Colored Corps, composé d'hommes noirs asservis et libres, est inauguré dans le Haut-Canada, l'Ontario, et participe à la bataille de Queenston Heights. En 1815, les anciens combattants noirs de la guerre de 1812 reçoivent des concessions de terres dans le canton d'Oro, mais une grande partie des terres ne sont pas adaptées à l'agriculture et plusieurs d'entre eux constatent qu'ils doivent se chercher un emploi ailleurs. D'autres collectivités, installées à Hammersburg, Chatham, London, Woolwich et Windsor, Owen Sound et Toronto, connaissent également une croissance pendant cette période. Les communautés noires de la Nouvelle-Écosse sont aussi revitalisées pendant et après la guerre de 1812. À la suite d'une offre de la Grande-Bretagne aux populations qui désertent les Américains, quelques 2400 personnes noires de Géorgie et de la région de Chesapeake aux États-Unis servent dans l'armée britannique ou soutiennent l'effort de guerre. Après la guerre, les réfugiés noirs s'installent à Preston, Hammonds Plains, Beachville, Refugee Hill, Five Miles Plains, Beaver Bank, Prospect Road, Halifax, Dartmouth et ailleurs. En date de 1834, les réfugiés noirs créent des communautés avec des églises baptistes africaines ainsi que des sociétés telles que l'African Friendly Society et l'African Abolition Society. En 1833, la loi sur l'abolition de l'esclavage dans l'Empire britannique permet d'abolir l'esclavage dans la plupart des colonies britanniques, y compris le Canada. Au début des années 1850, deux importants journaux abolitionnistes sont fondés au Canada pour appuyer le mouvement mondial anti-esclavagiste. The Voice of the Fugitive, fondé en 1851 par Mary et Henry Bibb à Windsor, en Ontario, publié à propos du chemin de fer clandestin. The Provincial Freeman, fondé par Mary Ann et Isaac Shad en 1853, publié à Toronto et plus tard à Chatham, a fait de Mary Ann Shad la première femme noire en Amérique du Nord à posséder et publier un journal. Vous écoutez Événements marquants de l'histoire des personnes noires et de leur communauté au Canada, un texte de Patrimoine canadien paru le 31 janvier 2025 sur le site de gouvernement du Canada. En 1858, près de 800 Noirs libres fuient l'oppression raciale de San Francisco pour l'île de Vancouver, où le gouverneur James Douglas les invite à s'installer. Malgré la forte discrimination dont ils font l'objet, ces pionniers marquent la vie politique, religieuse et économique de la colonie. Près de 400 familles noires californiennes déménage à Victoria ou sur l'île Salt Spring avant le début de la ruée vers l'or. En 1879, un nombre important de communautés noires commencent à immigrer en Alberta depuis l'Oklahoma, car elles n'ont pas réussi à trouver l'égalité, en dépit de leur expertise en tant qu'agriculteurs, et sont de plus en plus alarmés par une série de lynchages perpétrés par le Ku Klux Klan. Au Canada, cependant, ils font face à des manœuvres visant à empêcher l'immigration des personnes noires. À l'aube du 20e siècle, de nombreuses communautés noires fondées au Canada avant et juste après la Confédération initient des organisations et institutions qui contribuent à mettre en valeur le caractère unique de leur identité canadienne. Cela a ouvert la voie, au cours des années 1900, au développement de nouvelles communautés et organisations à travers le Canada à mesure que les politiques d'immigration discriminatoires à l'égard des personnes d'origine africaine et antillaise, entre autres, sont abolies ou réformées. 1900. Au cours de la première moitié du 20e siècle, de nombreux Canadiens noirs ont résisté à la pratique de la ségrégation, contribuant à l'apparition d'une protection officielle contre les restrictions racistes en matière d'éducation, d'emploi et de logement dans les années 1950 et 1960, lorsque certaines provinces ont adopté des lois imposant des pratiques d'emploi équitables et ont créé des déclarations des droits et les premières commissions des droits de la personne. En 1946, la femme d'affaires de Halifax, Viola Desmond, confronte le racisme auquel les Afro-Néo-Écossais font face en prenant un siège dans la section réservée aux Blancs du cinéma Roseland. Son activisme a ouvert la voie au mouvement des droits civiques au Canada. En 2018, Viola Desmond est devenue la première personne noire et la première femme canadienne à figurer sur un billet de banque canadien circulant régulièrement, lorsqu'elle figurait sur le billet de 10 $. En 1958, Willie O'Ree, né à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, a franchi la barrière de la couleur dans la Ligue nationale de hockey, LNH, en jouant pour les Bruins de Boston. Il est largement reconnu pour avoir été le premier joueur noir de la Ligue nationale de hockey et célébré pour son rôle dans la promotion de la diversité dans le hockey. En 1968, Lincoln Alexander est devenu le premier député noir à la Chambre des communes. Plus tard, il a également été lieutenant-gouverneur de l'Ontario de 1985 à 1991, devenant ainsi la première personne noire à occuper un poste vice-royal au Canada. Le gouvernement du Canada a annoncé en 2023 que Lincoln Alexander figurerait en bonne place sur le billet de 20 $. 2000. Le premier quart du 21e siècle a vu l'émergence de mouvements sociaux modernes et de l'activisme noir utilisant les médias sociaux et incluant davantage d'identités intersectionnelles dans la lutte pour la justice raciale au Canada. De plus, les deux dernières décennies ont connu plus de célébrations de l'histoire, la résilience et la présence des personnes noires au Canada. Michaëlle Jean, militante sociale, journaliste et documentariste, a été gouverneure générale du Canada de 2005 à 2010. Sa nomination a été historique, puisqu'elle a été la première personne noire à occuper ce poste au Canada. En février 2008, le sénateur Donald Oliver, le premier homme noir nommé au Sénat, a présenté la motion visant à reconnaître les contributions de la population noire et à faire de février le mois de l'histoire des Noirs. En 2015, les Nations unies ont proclamé la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine 2015-2024. En proclamant cette décennie, la communauté internationale distingue les personnes d'ascendance africaine comme groupe dont les droits humains doivent être promus et protégés. Environ 200 millions de personnes se considérant d'ascendance africaine vivent en Amérique. Des millions d'autres vivent dans diverses régions du monde, et ce, en dehors du continent africain. Le 7 février 2024, le premier ministre a annoncé une prolongation jusqu'en 2028 des efforts du gouvernement fédéral. Les Nations unies ont proclamé une deuxième décennie internationale des personnes d'ascendance africaine le 17 décembre 2024 afin de renouveler l'appel à la reconnaissance, à la justice et au développement des personnes d'ascendance africaine. Alors que le mouvement Black Lives Matter, BLM, a commencé comme un mot-clic à la suite de la fusillade qui a coûté la vie à l'adolescent non armé Trayvon Martin, ainsi que l'affaire judiciaire qui s'en est suivie en 2013, il est rapidement devenu une déclaration de ralliement pour protester contre le racisme envers les Noirs et la violence policière auxquelles sont confrontées les personnes noires. 5 chapitres canadiens du BLM ont vu le jour entre 2014 et 2020. Le mouvement Black Lives Matter a pris une ampleur significative en 2020 suite à la mort de George Floyd aux États-Unis. Dans le cadre de l'une des mobilisations les plus vastes, les plus étendues et les plus diversifiées de citoyens canadiens ordinaires, des personnes de tout le pays ont participé à des protestations et à des manifestations appelant à un changement systémique. Ces manifestations ont permis de changer le discours sur le racisme envers les Noirs au Canada. Le 3 octobre 2023, les membres de la Chambre des communes ont élu l'honorable Greg Fergus au poste de 38e président de la Chambre des communes. M. Fergus est au service de la population de Hull Aylmer au Parlement depuis octobre 2015. Au moment de son élection à la présidence, il était secrétaire parlementaire du président du Conseil du Trésor et du ministre de la Santé. Il a cofondé et co-présidé le caucus des parlementaires noirs pendant 6 ans. Ces événements du 21e siècle reflètent les efforts continus pour reconnaître, préserver et célébrer les diverses contributions des Canadiens noirs au tissu de la nation. Le mois de l'histoire des Noirs continue de jouer un rôle crucial en favorisant la prise de conscience et la compréhension de ce riche héritage. Au cours des derniers siècles, les personnes d'origine africaine et antillaise façonnent leur propre identité au Canada tout en apportant d'importantes contributions à la société canadienne. Nous vous invitons à profiter de l'occasion offerte par le mois de l'histoire des Noirs pour en apprendre davantage sur ces récits et témoignages et pour trouver des façons de les intégrer à l'identité canadienne tout au long de l'année. C'était « Événements marquants de l'histoire des personnes noires et de leur communauté au Canada », un texte de Patrimoine canadien paru le 31 janvier 2025 sur le site du gouvernement du Canada.
Héritage et impact des organismes dirigés par des femmes noires au Canada. Un texte de Patrimoine canadien paru sur le site du gouvernement du Canada. Pendant les 4 siècles ou presque de l'histoire du Canada, les femmes noires ont façonné leur propre identité tout en prenant des mesures décisives pour assurer la survie, la préservation et la croissance de leur famille et de leur communauté. En tant que porte-parole et catalyseur du changement, les femmes noires ont créé de nombreuses et importantes organisations qui ont fait progresser l'égalité et les droits de la personne. Sages-femmes dans les communautés africaines de la Nouvelle-Écosse. Les personnes d'origine africaine sont établies en Nouvelle-Écosse depuis le début des années 1600. Les migrations les plus importantes ont eu lieu entre la fin des années 1700 et le début des années 1900. Dès les premiers jours, il fallait être autonome pour survivre. Mettant au monde de nouvelles générations de bébés, les sages-femmes ont joué un rôle essentiel pour perpétuer la présence afro-néo-écossaise. Les sages-femmes quittaient leur foyer à toute heure du jour ou de la nuit et dans toutes sortes de conditions pour permettre aux bébés de naître de manière sécuritaire. Elles arrivaient, sacoche en main, avec leurs accessoires, linge propre, ciseaux, et généralement quelque chose pour faire à manger. Ces femmes se rendaient dans les foyers non seulement pour l'accouchement, mais aussi pour s'occuper de la famille, et restaient jusqu'à ce que les mères soient de nouveau sur pied. Leur expérience, leur courage, sans oublier leur foi, les ont guidées tant pour les accouchements normaux que pour les cas difficiles. Le but était d'assister les naissances jusqu'au premier souffle des bébés, de garder espoir, et ce même si le médecin d'office n'y croyait plus. Les sages-femmes se rendaient là où elles étaient requises, ce qui les amenait parfois dans les communautés blanches environnantes, pour aider à un accouchement lorsque le médecin ne pouvait pas s'y rendre. Dans les communautés noires de la Nouvelle-Écosse, les sages-femmes ont mis au monde des générations de bébés jusque dans les années 1960. Dames auxiliaires de l'African United Baptist Association de la Nouvelle-Écosse. Entre 1824 et 1891, un réseau d'églises baptistes africaines a été mis sur pied dans des communautés noires partout en Nouvelle-Écosse. En 1854, ces églises se sont regroupées pour former l'African United Baptist Association, AUBA, Association Baptiste Unie Africaine. Les femmes noires étaient des membres clés organisatrices et enseignantes au sein de l'AUBA. La Ladies Organization Auxiliary, Organisation des Dames Auxiliaires, a été fondée en 1917 lors des séances annuelles de l'AUBA à East Preston, en Nouvelle-Écosse, soit 12 ans avant que le statut juridique de « personne » ne soit reconnu aux femmes par une loi canadienne. La première présidente a été Sœur Maud Sparks de Cherry Brook. Le Provincial Freeman de l'Ontario. Le Provincial Freeman, un journal qui a vu le jour à Windsor en Ontario, a été cofondé par Mary Ann Shad Carey, la première femme noire en Amérique du Nord et la première au Canada à devenir éditrice de journaux. Consacré à l'anti-esclavagisme, à la tempérance et à la littérature générale, cet hebdomadaire a été publié du 24 mars 1853 au 20 septembre 1857 et couvrait les activités et questions relatives aux personnes noires du Canada. Le Club des femmes de couleur de Montréal. En 1912, un groupe de femmes noires forme son propre club social en fondant le Club des femmes de couleur, et ce, afin de pallier l'absence de groupes ouverts aux femmes noires. Dès le début, les membres du club se concentraient sur les besoins de leur communauté dans la circonscription montréalaise de Saint-Antoine, la Petite-Bourgogne. Les femmes noires qui ont formé le club suivaient l'exemple des Afro-Américaines Harriet Tubman, Ida B. Wells et Mary Church Terrell, entre autres, qui avaient fondé la National Association of Colored Women's Clubs à Washington, D.C., le 21 juillet 1896. Pendant la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale et la Grande Dépression, le Club des femmes de couleur a organisé, nourri, logé et soigné des membres dans le besoin de la collectivité. Leur travail bénévole et caritatif a été reconnu par le ministère des Relations avec les citoyens et citoyennes de l'immigration du Québec en 1997. Le prix Anne Greenup Solidarity Prize a été nommé en l'honneur de la première présidente du club et est décerné à des personnes ou des organisations qui contribuent au réseautage, à la solidarité générationnelle, à l'engagement civique et à l'appartenance. Le Hour a Day Study Club, Windsor, Ontario. Fondé à Windsor, en Ontario, en 1934, le Hour a Day Study Club s'appelait The Mother's Club. L'engagement des membres du club à étudier une heure par jour a eu une influence énorme sur la communauté. Les membres du club étant motivés par leurs résultats scolaires, les parents ont pu bénéficier d'un soutien considérable. Chaque année, des étudiantes qui avaient excellé dans leurs études recevaient la bourse Hour a Day Study Club. Le club a aussi organisé de nombreux événements sociaux et culturels comme les services religieux du Parents' Dinner, de la fête des mères et le Spring Musical. Le club a été très actif pour la promotion des droits des jeunes femmes noires du Canada. À l'époque où de jeunes femmes se voyaient interdire le métier d'infirmière, le club a fait pression auprès du ministre provincial de la Santé et de l'Université de Toronto pour que les Noirs soient admises dans la profession. Jusqu'à la fin des années 1940 et au début des années 1950, les femmes noires ont graduellement été acceptées comme étudiantes en sciences infirmières, puis ont été embauchées dans les hôpitaux partout au Canada. Les membres du club ont aussi soutenu diverses causes sociales, notamment en contribuant à planifier les festivités de l'Emancipation Day. La Canadian Negro Women's Association. Établie à Toronto, en Ontario, la Canadian Negro Women's Association a été fondée en 1951 sous le nom de Canadian Negro Women's Club. L'association se consacrait à l'éducation du public sur l'histoire des Noirs, offrait des bourses d'études aux étudiants noirs méritants, puis a organisé le Calypso Carnival, précurseur du Caribana Festival, dans le but de recueillir des fonds pour d'autres projets de service. L'association a également joué un rôle clé dans la création du Congrès des femmes noires du Canada. Congrès des femmes noires du Canada. Le Congrès des femmes noires du Canada, CFNC, a d'abord été tenu à Toronto, en Ontario, en 1973, sous le parrainage de la Canadian Negro Women's Association. Les discussions au sein de l'association ont mis en évidence le besoin d'une organisation nationale capable de composer avec les problèmes auxquels faisaient face les femmes noires du Canada. En 1974, fut fondé le Comité régional de Montréal, qui devint la première section du Congrès des femmes noires du Canada. Deux ans plus tard, lors d'une conférence à Halifax, les délégués ont mis sur pied une organisation nationale et, en 1977, à Windsor, un comité directeur national a été créé pour établir un réseau de communication, rédiger une constitution et élaborer une structure organisationnelle. C'est à Winnipeg, en 1980, que l'organisation nationale a vu le jour, que la Constitution a été ratifiée et qu'un conseil exécutif national a été formé. Le Congrès des femmes noires se consacre toujours aujourd'hui à l'amélioration de la vie des femmes noires et de leurs familles dans leurs collectivités locales et nationales respectives. C'était « Héritage et impact des organismes dirigés par des femmes noires au Canada », un texte de Patrimoine canadien paru sur le site du gouvernement du Canada.